Rappelez-vous l'histoire de lame du violon, les deux plaques de bois, hein, dans le violon, il y a un support, lame. C'est ça la qualité du violon, en fait. Dans les Stradivarius, c'était tellement bien fait, c'est ça qui fait vibrer les deux planchers, qui fait la résonance, et ça sort par le trou, quand les cordes travaillent, hein, naturellement il y a l'artiste hein, qui doit faire son travail, mais l'âme du violon, ben, nous, en nous, le son qui doit sortir de nous doit être agréable à Dieu. Ce son qui sort de notre cœur, même parfois on peut prier en silence, hein, on peut prier longtemps en silence. Combien de fois, moi, en tout cas, la majorité du temps, c'est en silence. Mais ce qu'il y a, c'est pas le silence du muet, c'est le silence dans le cœur. Je m'adresse au Seigneur, je parle avec lui, et souvent, je fais des demandes pour quelqu'un, ou je lui demande pardon pour des tas de choses, comme dans ce psaume, etc. Et pratiquement, la vie se passe avec le Seigneur. Comme l'âme du violon, la vie de ce bois, il se passe avec les deux planches, si vous voulez. Hein. L'âme du violon, elle se passe, sa vie se passe avec les deux. Hein. Eh bien, dans notre cœur, le son doit être agréable et il repose sur un désir d'éternité. Vous savez bien que dans Ecclésiaste 3.11, il est mis que Dieu a mis en nous un désir d'éternité. Il a inscrit cela. Eh bien, que même un incroyant, il a quelque chose dans son violon. Hein, ce n'est pas un bout de bois. Une âme d'homme, ce n'est pas un gros bout de bois, une grosse bûche. Hein, c'est peut-être un violon désaccordé, un violon qui n'a plus de corde, mais, et que personne n'a jamais joué dessus, mais ce n'est pas un bout de bois, ce n'est pas un abruti. C'est pas, il ne faut pas mépriser la création de l'homme. Hein. Alors à nous si on le fait. Donc, dans Ecclésiaste 3.11, c'est clair, nous avons reçu un appel de Dieu, il est inscrit en nous. C'est un appel pour Dieu, mais c'est en même temps une œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas passif, cet appel-là est à l'œuvre. Et à un moment donné, il se met en route. Parfois, on rencontre quelqu'un, on lui propose l'évangile, on en donne un, et puis il n'y a rien. Vous avez l'impression, mais il ne faut pas dire ça ne sert à rien. 20 ans après, moi, j'ai vu des gens qui venaient me trouver. Mais Dieu met à l'épreuve ceux qui le servent. C'est lui, chef d'orchestre. C'est pas nous. Alors, nous avons tous un rêve, c'est que l'épouse de Christ, elle soit... Il y a beaucoup de chrétiens, qui est une immense foule de gens qui acclament le Seigneur quand il va revenir, et dans les cieux. Nous avons tous ce rêve d'une maison de Dieu pleinement habitée, hein, d'une manifestation de la gloire de Dieu dans le cœur des hommes. Nous avons ce rêve de voir la merveille du salut dans les âmes. Mais nous ne maîtrisons pas ce rêve. Il est inscrit en nous, nous nous mettons à la tâche, et l'artisan du salut, c'est le Christ, Jésus. Alors, il y en a qui, à cause de ça, se disent, c'est bon, hein. J'ai essayé 2-3 fois, c'est fini. Hein. Et, bon, peut-être bien une fois de temps, une fois par an, je vais parler du Seigneur à quelqu'un. Hein. Si ça se présente, hein, que l'autre me provoque, je vais répondre. Mais, bon, ce que je veux dire là-dedans, c'est que la culture par omission dans une église, par défaut, c'est ça. La culture par omission, par défaut, dans une église est fréquente. Beaucoup d'individus dans une église, de personnes, se sont mis sur le parking et ont laissé l'auto là. Hein? Et ils roupillent dans l'auto. Et c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Hein? Prenons la Bible. Si quelqu'un veut lire dans Jean, chapitre 22, versets 27 à 28. Il faut surtout faire attention à la volonté de Dieu. C'est pas la peine d'avoir une culture négative, un refus de servir Dieu, qu'il soit passif, qu'il soit volontaire, qu'il soit sentimental, par déception, tout ça, c'est toujours un refus de la volonté de Dieu. Hein. Il n'y aura pas d'excuses. Hein. ça peut donner les douleurs que vous avez dans le psaume 38, là, qu'on a entendu, hein, au, en bout d'un certain temps. Ça peut donner, dans les chrétiens, des douleurs de ce type-là. Hein. Si, quand on fait une culture par omission, culture de la foi par omission, par défaut, je suis chrétien, ben, j'ai la foi, je serai sauvé. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Hein. Puis j'ai pas envie. J'ai essayé quelques fois. Bon, ça ne marche pas. Vous savez, on peut se débiner tout le temps. Alors, qui veut lire Jean 22, versets 27 et 28?
Il n'y a pas le chapitre 22 dans le chapitre.
Ah non! Bon, alors, excusez-moi, c'est moi qui ai mal noté, parce que c'était tardif, il était 1h30 du matin, et j'ai rajouté ça à mon étude. Alors, je vais aller voir au chapitre 12. Le Seigneur me donnera un coup de pied dans le derrière quand il me verra. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Si Jésus a eu l'âme troublée, c'est possible que le chrétien ait l'âme troublée. Le serviteur n'est pas au-delà de son maître. Le serviteur n'est pas au-delà de son maître, n'est pas plus grand que son maître, que le Seigneur Jésus. Donc, c'est clair, on peut humblement reconnaître que nous avons des troubles et que parfois on est rataplat. Hein? Et délivre-moi de cette heure. Bien sûr, lui, c'était le sacrifice à la croix, mais il y a quand même été. Mais nous sommes dans des situations, des fois, nous chrétiens, où on a vraiment, on n'a pas envie de se subir ce qui va arriver, ce qui est en train de se passer. On n'a vraiment pas envie. Et c'est horrible. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Eh bien, nous, quand on nous a dit ça, écoutez, hein, quand c'est arrivé, c'est des coups de bazooka, hein. Boum. Alors, et puis d'autres choses, des problèmes majeurs qui vous écrabouillent. Et délivre-moi de cette heure. Et pratiquement, il faut se donner à son Père, il faut venir. Et glorifie ton nom, il faut, c'est au Seigneur, que, au Seigneur d'intervenir. C'est au Seigneur de laisser, de faire quelque chose parce qu'on est anéanti. Ça, c'est une base indiscutable. Nous allons au fond du panier régulièrement ou de temps en temps, mais de toute manière, c'est permis par Dieu. C'est permis et nous ne faisons pas d'illusions, nous serions trop orgueilleux si ça n'arrivait jamais. Alors, si nous sommes quelque part passifs, nous sommes quelque part désabusés ou quelque part fatigués, que nous n'avons pas une culture active, intentionnelle, tout le temps, d'évangéliser, et même si nous l'avons eu pendant 5 ans, 10 ans, et puis tout d'un coup, plus rien. Même les plus actifs, pour le Seigneur, peut faire vivre des moments, mais vraiment, noirs, hein. Je ne vous cache pas, j'ai connu ça, et j'ai des amis pasteurs, des amis chrétiens, c'est arrivé, hein. Il ne faut pas trop se faire d'illusions, ça arrivera, si ce n'est pas encore arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se laisser laver par le Seigneur, hein. C'est que quelque part, on a mal fonctionné. C'est que quelque part, on a pris de la boue sur les pieds et même sur le reste, dans l'âme. On a été, d'une manière ou d'une autre, pas conforme. Et on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. C'est ça qui est pire. Dans Jean 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien, car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une communauté, dans une assemblée chrétienne, il y a tôt ou tard besoin d'être aidé, secouru et même lavé par les autres. C'est un devoir réciproque, mutuel. Il y a quelque chose à faire pour les autres. Il y a quelque chose à faire pour qu'il ne reste pas dans sa crasse, qu'il ne reste pas dans un couvert de poussière, Et vous avez vu Pierre, il était pris de présomption, il ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds. Le gros problème de Pierre, et je pense que le premier problème chez le chrétien qui commence à le perdre, c'est la présomption. C'est un véritable piège, la présomption. Si vous ne savez pas ce que c'est, prenez le dictionnaire. C'est l'illusion que je suis bien. L'illusion que ça va très bien par moi-même et que oh, le Seigneur me dit, moi je suis bien dans les voies du Seigneur, je fais sa volonté, et si c'est ça, j'ai toujours... Pour finir, on croit toujours qu'on a raison. Oh, j'ai prié beaucoup, j'ai lu beaucoup ma Bible. Mais la présomption, c'est que non, on n'est rien du tout devant le Seigneur. On n'est rien, il faut se laisser laver les pieds. Et dans une église, c'est bien, puisque Jésus est pour un certain temps pas visible, mais qu'il est là. Et il nous demande de nous laver les pieds les uns les autres. Et c'est un service. Il faut aider, il faut s'entraider à ne pas s'embourber, à être dans la boue jusqu'au cou, parfois au-dessus de la tête. Il faut s'aider. Si on voit un frère qui, quand il est vraiment appelé par le Seigneur, ou une sœur vraiment appelée, on sait très bien que le Seigneur l'a appelé. Ça, c'est une chose importante dans une église. Si on prie et qu'on est là en train de méditer, on sait très bien, en pensant à chacun, parfois il y en a un qui n'a pas encore été appelé. Il est là et il ne sait pas encore, il n'a pas répondu, il n'est pas encore en connexion avec le Seigneur. Mais est-ce qu'il est appelé ou pas? Ça c'est le préalable. Est-ce qu'il est appelé? Il faut prier pour savoir. Mais parfois il faut demander à deux, trois frères, ce n'est pas pour médire, critiquer, voir les défauts. Et puis, pratiquement, en tout cas dans le silence de la prière, on voit souvent clair. Si on ne voit pas clair, que plusieurs prient, le Seigneur éclairera. Mais ce qu'il y a, si réellement quelqu'un a déjà donné sa vie au Seigneur, qu'il a déjà montré des engagements sur le Seigneur et tout, et puis que tout d'un coup il est embourbé, à un point qu'il ne peut pas s'en sortir, hein, parce qu'il est tombé dans il s'est mis les pieds dans les filets du diable, ça, il ne l'a pas vu, et il est bien pris. Est-ce qu'on va être là à chasser que pour le laisser s'enfoncer et se perdre? La lâcheté, attention, dans les églises. C'est ça que je dis, la culture par omission dans l'église. Faire gaffe, hein. Faire gaffe. Il ne faut pas se figurer aussi que tout dépend du pasteur. Il doit tout faire, il doit courir, il doit tout voir, tout savoir. Oh là. Ça, c'est vraiment l'antidote de la vie chrétienne, ça. On ne fera plus rien. Donc, nous savons que Dieu nous attend un comportement de service, un comportement de compassion à l'égard les uns des autres. Et regardez, hein, au verset 16, « en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Donc, il n'y a pas à avoir de présomption. Vous voyez, la présomption, les blayons là. Ben, il y a un bois, oui. Il y a un bois là à mettre. Verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous vous rendez compte, le verset 17, une assemblée, c'est un vous, c'est pas un vous poli, ça n'existe pas dans le texte en grec. Hein. Le vous poli du français n'existe pas en grec. C'est un vous collectif, c'est communautaire, c'est l'assemblée. C'est, vous serez heureux si vous pratiquez ça entre vous, le lavement des pieds. Et écoutez bien. Si vous savez ces choses, ça ne suffit pas. Je le sais, mais je ne bouge pas, je ne fais rien. J'ai vu tout, j'ai compris tout, mais ça m'est arrivé. Hein. Grosse catastrophe après de voir cette personne dégringoler, irrémédiablement être plus. C'est fini, terminé. Quitte l'église, quitte la vie chrétienne. Mène une vie horrible. Et à un moment donné, j'étais averti, il fallait intervenir. Pourquoi? La timidité? Oui, le manque de confiance dans le Seigneur? Oui. Le manque de trop s'écouter, compter sur soi pour aller trouver quelqu'un? Non. Il faut prier et compter sur le Seigneur pour qu'il soit entre les deux personnes. C'est le Seigneur l'arbitre dans deux équipes de football. Nous ne sommes pas l'arbitre. Il faut se confier à l'arbitre. Si on rencontre un frère ou une sœur, qu'on sait qu'il souffre, qu'il a ou qu'il s'est mis mélanger les pinceaux, mais si on va le trouver, c'est en sachant que le Seigneur est là. Donc on y va humblement et fraternellement. Vous ne tracassez pas que l'autre a compris. Ce n'est pas une église psychorigide et légaliste, c'est une église fraternelle au sens de Jésus-Christ. On se lave les pieds. Et regardez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est la pratique, c'est l'exercice d'un nouveau comportement d'amour et de soutien mutuel qui fait le bonheur des chrétiens. C'est extrêmement important tout ça, c'est inépuisable. Si, quand il y a la prochaine rencontre fraternelle, les animateurs veulent se tourner vers ce sujet-là, c'est inépuisable. Ça, c'est clair. Il y a des textes tant qu'on veut. Et surtout des situations à tout le monde de partager. On peut partager des heures, alors que quand on a une réunion fraternelle, bon, après le repas, on est limité. Mais c'est déjà mieux que rien du tout de ne pas partager. Et puis, on peut se rencontrer, se visiter, etc. Puis le jour du mariage, si on est à table, c'est comme Astérix et Obélix, on est à table pendant tous ensemble et on a du temps pour se parler. Hein? Et puis s'il y a des baptêmes, c'est la même chose. Il y a des occasions où si on veut, on n'est pas obligé d'être superficiel. Hein? On peut être attentif aux autres. Oui, avoir l'air superficiel et ne pas l'être, ça c'est un art. C'est un art, parce qu'on n'oblige personne à être profond, on n'oblige personne à être sérieux. Mais dès que quelque chose de sérieux arrive, paf, on est sérieux. Hein? Ça, c'est important. Il faut décontracter. Une culture décontractée, de la solidarité, de l'amitié, une culture dégagée de l'angoisse et du stress, mais une culture de la vie ensemble. L'Église n'est pas quelque chose qui se subit, c'est quelque chose qui se vit. Laodicée, Apocalypse 3:20. Quel est le grand drame de toutes ces églises-là? Mais c'est incroyable qu'on atteint du 1er siècle. Mais quelle poisse! Et c'est possible toujours. Alors, toutes les églises qui sont décrites au début de l'Apocalypse... Bon, prenons le cas de Laodicée. C'est un cas bien gentil. Bien gentil, apparemment. Chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Donc, c'est un messager, c'est une personne humaine. Hein? Un galou, c'est un messager. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc, c'est le Christ. Voici ce que dit le Christ pour cette église-là. Hein? Parce que Jean est en résidence surveillée, il ne peut plus bouger, à part faire le tour de sa maison, hein, et regarder la mer, mais il ne peut plus bouger, hein, il est coincé. C'est le seul qui ne sera pas assassiné, de tous les apôtres hein, d'ailleurs. Mais là, il est coincé. Et c'est les responsables d'église qui viennent le voir. Alors, je connais tes œuvres, donc tes actions, tes engagements. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà, c'est la culture du passif. Hein, je ne fais plus rien. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, donc j'ai la foi. Je suis sauvé. Et parce que je ne sais pas que tu es... Tu ne sais pas que tu es... Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, il y a quelque chose dans la conscience. C'est ça qui est bizarre. Hein. Des fois, j'ai remarqué ça, de circuler un peu à travers différentes églises, et surtout en faisant les travaux manuels. On a fait des travaux manuels dans différentes églises à un moment donné, parce que je pétais la forme. Hein. Et alors, à deux, trois places, dans les Vosges, en Alsace, et à Paris. Mais là, quand on travaille, les chrétiens passent. Vous êtes en train de travailler, ils passent. Et puis, tout d'un coup, ils sont ce qu'ils sont, les chrétiens. Vous êtes en train de maçonner, en train de plâtrer, ils sont là et ils cherchent à vous parler. Vous êtes là, ils cherchent à vous parler, ils cherchent... Bon, c'est quelqu'un d'étranger, ils sont plus faciles que quelqu'un de l'église, sans doute. Et puis, vous si vous priez pour eux, vous êtes là parce que c'est le Seigneur que vous a envoyé là, vous faites le travail pour le Seigneur et pour eux, vous écoutez, et puis ils repartent. Le lendemain, ils reviennent. Vous avez réfléchi. Vous êtes parti de chez vous, vous n'avez que ça à faire. Vous êtes parti de chez vous. Vos vaches sont couvées, il n'y a rien. Vous êtes là en train de cogiter. Il y a le boulot, et puis il y a ça, il y a les chrétiens là. Et qu'est-ce que vous vous rendez compte? C'est qu'il y a des gens qui sont malheureux, qui sont misérables et qui en souffrent, qui sont en guenilles au niveau spirituel. Et vous ne pouvez pas dire des choses méchantes, mauvaises, ou simplement vous le voyez. Comme le Seigneur le voit encore mieux. Et s'ils sont en église ensemble, quand ils se rassemblent, vous avez l'impression que tout va bien. Je suis riche, etc., etc. C'est ça, le paraître. Alors, il y a une réunion à Namur bientôt pour des femmes d'un tas d'églises. Oui, il y aura peut-être 50 ou 200 femmes, etc. Et pratiquement, Bénédicte et peut-être Marie-Hélène vont y aller. Marie-Hélène dit, elle dit, je ne vais pas y aller parce que je vais à peine arriver, ça y est, il y en a 199 qui vont bien, il y en a une 200e qui ne va pas, c'est pour moi, elle va venir me trouver. Alors elle dit, oh non, non, j'entends toujours les misères. Mais moi c'est comme ça aussi, et nos enfants aussi. Mais si Dieu le veut comme ça, je ne sais pas, c'est, si Dieu le veut comme ça, acceptons. Mais elle dit, mais laisse-toi faire, on va rencontrer, tu vas rire, tu vas oublier la casse-bas, la maison, la gomme, le plaid, tu vas oublier tout. Tu vas rencontrer les chrétiennes et puis tu seras peut-être invité chez elles. Tu repartiras. C'est une dynamique, la foi chrétienne. C'est une dynamique d'amour. Il ne faut pas s'y refuser. Il ne faut pas s'y refuser quand on a l'occasion. Et pratiquement, vous voyez ici, dans cette église, la dynamique est morte. Hein ? Elle est morte. Je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ben oui, au finir, on n'est plus rien du tout. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, l'or, c'est l'adoration de Dieu, c'est l'attachement à Dieu. Le feu, c'est la parole, purifié par la parole. Afin que tu deviennes riche, ben oui, une foi riche, active, engagée, vivante, en Christ. Et d'événements blancs, ben oui, les qualités de Christ, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, la honte de ton péché, d'une vie médiocre, une vie sans engagement, quoi, sans resplendissement de Christ. Alors, et c'est pire encore, hein, c'est que la honte de ta nudité ne paraisse pas, parce que pour finir, un chrétien qui est comme ça, il finit par se cacher, il quitte l'église, il vit tout seul, et il finit mal, hein, jusqu'à son enterrement. Il a honte, il est désabusé. Il a honte. Il vit avec une image négative de soi, mais épouvantable. Et de l'église aussi, et des chrétiens aussi. Et on peut avoir sur 100 personnes dans une église, il y a des grosses églises, ou 500 personnes, il peut y avoir des tas qui finissent mal. Ou dans une petite église aussi. Alors, dans cette ville-là, on fabriquait des médicaments pour les yeux. Figurez-vous qu'on fabriquait des collyres. Toutes sortes de choses, hein, incroyables. Et il y avait aussi des bains, parce qu'il y a des sources d'eau chaude, avec des cascades, en pierre blanche, du calcaire. C'est beau à visiter, on y va encore, il y a plein de touristes qui vont se baigner. Mais il y avait aussi une culture de ce qu'on appellerait l'homéopathie, la naturopathie maintenant, tout ce qu'on fait maintenant dans certains lieux, bio, eh bien, on le faisait là. Et Jésus en profite pour dire, mais il te faudrait quelque chose pour ouvrir tes yeux, qui soigne bien tes yeux, les yeux de l'âme. Et quand vous regardez dans Éphésiens chapitre 1, Paul prie pour que dans l'église d'Éphèse, c'est aussi une église de cette région-là, les yeux du cœur s'illuminent par l'esprit. Donc il y avait déjà un problème. C'est le même problème. C'est le même problème. Alors, il priait pour ça. Donc, un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. avoir la vision spirituelle, une vraie vie chrétienne, où on voit où on va, et on reconnaît les frères, on voit, et on voit une âme perdue, on en souffre, on prie avec elle, etc. Alors, c'est ça, là, voir. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Châtier, ça veut dire corriger, hein. C'est pas tuer. Et donc, du zèle, donc du feu en toi, repends-toi, change de vie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, Jésus n'est plus dans l'église. Soyons honnêtes, il y a moyen de mettre Jésus à la porte dehors de l'église, hein. C'est vite fait, la culture passive et tout ça. Et pratiquement, lui, il est dans un rapport. Et si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui. Toi et toi avec moi. Pratiquement, Jésus est un Dieu de communion et un Dieu d'approche, un Dieu de proximité. Jésus a à la fois la richesse humaine, sans péché, et la richesse divine, infinie. Et c'est unique. C'est unique. Nous avons quelqu'un d'unique. Alors, une culture qui s'attache à une personne aussi unique, hein, une méthode de pensée qui nous attache de plus en plus, une façon de nous comporter dans la pensée, dans les sentiments qui nous attache de plus en plus à la personne de Jésus et à sa volonté, c'est une source de richesse, c'est une source de vie. Et c'est une vie comme une fontaine qui déborde sur les autres. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 8, hein, quand tu... L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire dans Jean, l'évangile de Jean, c'est le verbe adhérer. Adhérer. J'adhère. Hmm? Il est de la responsabilité de chacun de nous d'aimer Jésus, de s'en approcher, de déposer notre cœur sur son cœur. De déposer nos pensées dans son Saint-Esprit, de déposer notre corps à terre, un corps malade ou qui va mourir, et comme pour la petite fille, Jésus s'est couché dessus, Talita Kumi, petite fille, lève-toi. Notre corps lui appartient, de la même façon que la petite fille où Jésus s'est couché dessus, et que Élisée s'est couché sur l'enfant mort de la tsunamite. Notre corps lui appartient. Faisons clairement, disons au Seigneur, mais prends mon corps. Je ne veux pas que le diable me triture dans tous les sens, mon corps, je sois déchiré par des passions et des tendances qui m'écartent de toi. C'est un engagement vers le Seigneur qui est actif, relationnel. Il est de la responsabilité de travailler à la relation pour Jésus. Jésus n'attend que ça. La capacité d'être auprès de Jésus m'importe plus que de faire quelque chose pour Jésus. C'est ça qui est important. La capacité et la volonté d'être auprès de Jésus, avec Jésus, est plus importante que de faire quelque chose pour Jésus. Faire quelque chose pour Jésus, c'est la conséquence de ce que je suis avec Jésus, par Jésus, en Jésus. Alors, je vais dire adieu à la culture des fiertés mal placées chez les chrétiens. Adieu à la culture de l'amour propre, parce que l'amour propre, c'est un amour très mal propre, pour finir. Adieu à la culture des divisions, adieu à la culture de la superpuissance, du désir d'être reconnu, de réaliser des grandes choses, parce que mon maître a tout réalisé, je suis avec lui. Mon Seigneur a tout réalisé, je me confie en lui. On verra bien ce qu'il me fera faire. Et il me fera dire. Mais je ne recherche plus rien de moi-même, en moi-même, par moi-même. Alors, de la superpuissance. Parce que tous les films, les Pokémon, hein, la puissance est en toi, avec les enfants, hein, à la télévision. La puissance est en toi. Et si vous regardez bien les énergies positives, tous les courants, la sérénité, tout ça, c'est ça, hein. C'est tout le contraire. C'est l'enseignement du diable. Alors, la culture des clans aussi, la culture des divisions, hein, des clans, on recherche des appartenances. Moi, je pense que Dieu n'a pas créé une église pour les Noirs et une église pour les Blancs. Une église pour les Tziganes et une église pour les non-Tziganes. Une église pour ci, pour ça, à la Pentecôte, c'était tout le monde, de tous les pays, de toutes les races. Et une église doit rassembler par l'Esprit-Saint des gens quasiment qui ne pourraient pas se comprendre si l'Esprit-Saint n'était pas là. C'est un défi que Dieu veut. L'amour de Christ, l'action de Christ, c'est l'anti-Babel, c'est l'anti-tour de Babel. C'est refaire l'union, l'unité des chrétiens sans l'orgueil religieux de la tour de Babel. C'est refaire par le Saint-Esprit l'union et la communion perdues. Alors, c'est la culture des pas de clan, pas de division, pas de racisme. C'est pas la culture non plus de l'impureté. C'est pas la culture des miracles et des prodiges pour pouvoir faire des actes de pouvoir. C'est moi qui ai vraiment la foi, parce que les autres là-bas, ils n'ont pas. Hein, ils n'ont pas vraiment le Saint-Esprit. Je me suis fait bombarder, moi, hein, je vous le dis franchement. Vous saviez le nombre de lettres ou des choses. Il faut l'encaisser, hein. Bon, Seigneur. Comme vous voyez que Jésus guérissait et se sauvait pour que le village ne le reconnaisse pas, qu'il faisait une multiplication des pains et qu'il se sauvait pour qu'on ne le fasse pas roi, regardons Jésus. Nous ne faisons pas une prière pour que quelqu'un soit guéri et que tout le monde sache qu'il est guéri par moi. Non. Si quelqu'un est guéri, quand j'ai prié, que nous avons prié, c'est le Seigneur qui l'a guéri. Nous, serviteurs inutiles. Naturellement, Dieu peut honorer certaines prières, certaines personnes, plus que d'autres. Ça dépend de la relation de proximité avec le Seigneur. On doit bien connaître le Seigneur, on doit bien connaître sa volonté, et savoir s'il me demande de le faire ou pas. Ça, plus la relation est étroite, plus on sait ce que le Seigneur demande et ne demande pas. La culture de la prospérité. Il y a une sœur ici dans notre église, elle allait dans une assemblée africaine, et la dame qui dirigeait l'église avait promis à tout le monde d'être millionnaire, à Dinenes.
Ah bon, c'est où ça?
C'est pas, 25 km d'ici.
J'ai un peu d'argent pour une fois.
Oui, pour une fois, oui.
À condition de donner plein d'argent.
Mais attention, hein, j'ai connu quelqu'un.
Parce qu'en retour, vous...
J'ai connu quelqu'un ici à Aide qui a vendu sa maison pour elle. Hein.
Ah oui?
Ah oui, je suis arrivé, moi, je voyais une affiche, je dis, vous venez de la bâtir, vous la vendez. Ah oui, je fais partie de cette église-là et tout ça, et je ne vais pas dire le nom. La sœur, le pasteur, hein, la sœur m'a demandé, bon, ben regardez le Vatican, tiens. Ça fait beaucoup de fortune tout ça, hein, si on trouve des pigeons. Mais Jésus n'a pas voulu de pigeons, il a voulu des frères et des sœurs, lui. Il n'a jamais pris quelqu'un pour les pigeons. Il a accepté d'être le pigeon de tout le monde, sur la croix. Oui. La culture de la prospérité et des fausses, des bénédictions que Satan voulait proposer à Jésus sur le mont de Sion, à Jérusalem, les bénédictions de Satan ne font pas partie de nos bénédictions. Bénédictions. L'évangile de la prospérité n'est pas de l'évangile. Regardons 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. 1 Corinthiens 3, 6 à 7. Chapitre 3, verset 6 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est pas beau ça? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pas mis pour Dieu, hein? Avec Dieu. C'est donc dans une union à Christ que se dégage le travail à faire. Hein? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc si on est le champ, c'est lui qui le cultive. Nous sommes cultivés. C'est pour ça que je dis la culture intentionnelle, c'est Dieu qui nous donne les bonnes intentions. C'est Dieu qui nous donne les vraies pensées. C'est pour ça que dans l'Épître aux Corinthiens, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Longtemps, je me dis, mais le Paul, il y va fort. Hein? Il y va fort. Mais j'ai bien compris. C'est clair, c'est évident. Hein ? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Vous vous rendez compte, le cadeau d'être en union, en communion, mais il a dit « nous », hein ? Il n'a pas dit « je ». Parce que alors, les gourous, ça va dans tous les sens, hein, ça pète, on fait des sectes, et vas-y, Nénès, on crée plein de trucs, hein ? Le « nous », que tous les esprits soient soumis aux esprits, hein ? Par l'Esprit Saint, évidemment, par la parole. Donc, les dirigeants et les membres de l'Église sont ensemble des agents provocateurs dans le monde, des agents provocateurs de la vie spirituelle entre eux. C'est des agents provocateurs de la vie spirituelle dans les familles de l'Église. Et ça déteint cet esprit de provocation non violente, de provocation active mais non orgueilleuse, touche à travers chaque chrétien, touche des gens au travail, touche des gens au bus, à l'arrêt du bus, à la poste, etc. C'est bizarre, vous n'êtes pas comme les autres. Et pourquoi vous êtes toujours joyeux ? Ah, c'est bizarre. Vous donnez les évangiles, c'est pourquoi ? Oh, c'est pas pour moi, c'est pour Jésus. Et c'est pour vous. Donc, le désintérêt complet, c'est ça être provocateur. Le désintérêt marque le signe de la vraie vie spirituelle et marque le signe de la vraie croissance spirituelle. La culture des âmes passe par le désintérêt, serviteur inutile. Et que fait ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, dans 1 Corinthiens 3, 6 et 7 ? Planter, arroser, faire croître. Hein ? Apollos, Pierre, etc. Planter, arroser, faire croître. Et puis après, c'est Jésus et ses anges qui fauchent et qui moissonnent. Ça ne nous appartient pas. Il nous faut donc nous soumettre à toutes les conditions que Jésus nous a données. Et nous allons parfois trop vite en avant, mais il faut pouvoir arracher et brûler les terrains charnels, ce qui vient de nous. Ce n'est pas facile. Je suis bien mis pour le savoir, mais sûrement parmi vous il y en a aussi. Ça donne un caractère trop volontaire, trop actif, où on veut trop vite agir et on court devant le Seigneur Jésus. Mais il faut le suivre. Jésus, viens et suis-moi. C'est le problème. On finit par déraper. On court devant et on dit Seigneur, j'espère que tu es toujours derrière moi, que tu me suis. Mais on attrape des mauvaises leçons là, hein, parce que le Seigneur est patient. Mais parfois, il nous fait goûter à la peine de notre péché. Donc, le travail de Dieu et de l'Esprit Saint, c'est d'utiliser toutes les graines qu'il a dans son grenier, dans son ciel, toutes les bénédictions pour nos vies. Ça ne vient pas de la terre, la vie chrétienne, la vie spirituelle. Ça vient du grenier de Dieu. C'est lui qui en réserve toutes les bénédictions pour chaque instant de nos vies, que ce soit la nuit ou la journée. Toutes les grâces se trouvent auprès de Dieu et viennent de Dieu. Il n'y en a aucune qui m'appartienne. C'est pour ça que l'image de la récolte, on a semé, on a arrosé, on a fait croître, mais c'est Dieu qui fait croître, on ne récolte pas. C'est le Seigneur Jésus avec ses anges. Tout se trouve dans nos vies, destiné au ministère de Christ. Donc les relations entre les membres de l'Église sont appelées à être fidèles, durables, pour être favorables à la croissance de chacun dans l'Église. C'est parfois peu long de rester 20 ou 30 ans ou 40 ans dans la même Église. C'est parfois lourd. J'ai entendu que c'était mieux là-bas, c'était mieux ci, etc. Mais si réellement, ce n'est pas interdit d'aller autre part. Jésus n'a jamais... Mais ce qu'il y a, il faut savoir. que c'est comme si un papa et une maman restent ensemble et qu'il y a des enfants. Et qu'il y a une amitié profonde qui se développe, ils vont mieux grandir et moins souffrir que des parents qui se disputent et des enfants qui partent, qui pètent dans tous les sens et qui souffrent. Qui parfois, que peut-être un jour on se réconcilie, on se demande pardon, on se retrouve, mais au prix de quelle souffrance, de quel itinéraire difficile. Et parfois il reste des morts, il reste des gens qui sont complètement irrécupérables, qui sont morts avant l'âge, qui ont trouvé le désespoir. À cause d'une situation où il n'y avait pas cette durabilité, cette fidélité. Dans une église, il faut assurer, entre les membres de l'église, des relations fidèles et durables, pour qu'elles soient favorables à la croissance de tous. Par exemple, Annette, qui est là depuis le début, est favorable à la croissance de tous. Elle pourrait dire, je reste devant moi, dans mon canapé, je regarde la messe du dimanche, ou le culte protestant. Les chaises au culte ne sont pas terribles, et puis il radote toujours la même chose, le pasteur, et pratiquement, j'ai envie d'entendre autre chose. Alors, les relations durables et fidèles apportent une croissance aux chrétiens. Ça, c'est sûr, ça paye. Alors, regardons 2 Épître de Pierre. Ça paye pour qui ? C'est pas de l'argent. Pas de l'argent du tout. C'est-à-dire que ça porte des fruits et ça enrichit l'Église, ça enrichit les cœurs des chrétiens. Et tout compris, vous savez, il y a tellement de gens dans la vie qui ont été lâchés par leurs amis, par leurs conjoints, par leurs frères et leurs sœurs. Lâchés, abandonnés, seuls dans le monde. Et ils trouvent une Église où c'est une famille. Et puis ils font pas semblant en plus. Ça fait un choc, hein? Cette personne-là qui arrive, elle dit « Je suis tombée chez les Martiens. » Mais si elle se rend bien compte que c'est vrai, que ce n'est pas du bidon, il va pleurer. Il va dire « Mais je ne croyais pas que ça existait. » Et il va, son cœur qui s'est endurci, qui s'est fourvoyé, il va fondre. On a eu le cas il y a 2 jours avec un jeune homme, hein? Parce que bon, il s'est mis dans des situations invraisemblables, mais il est venu ici, on l'a logé, on l'a aidé. Souvent, il reviendra. Il avait mis l'écharpe sur ses yeux, il pleurait en partant. Et il a dit à Noémie, je viens de découvrir qu'ici, vous aimez vraiment les autres. Pourtant, il nous connaît depuis tout un temps. Il vient de faire, il y a eu un choc, vous aimez vraiment les autres. Monsieur qui est parti au Tchad, qui est reparti avec sa famille, ses 6 enfants, qui a fait les centres de réfugiés et tout ça, qui avait travaillé 14 ans en Italie, puis plus de travail, au bout de 6 mois, 9 mois, plus de chômage, rien. Il vient en Belgique pour essayer d'être réfugié, ça ne marche pas. Donc il trouve une vieille camionnette, il la met là, il remplit de nourriture, et puis un jour il part. Le ticket de l'ONU, hop, on renvoie tout le monde au Tchad, la femme et les enfants. Et lui, il est parti. La camionnette est partie en Verse, puis Cotonou, et puis il était parti avec la femme, il va à Cotonou chercher la camionnette, chargée. C'est un musulman pratiquant. Il était parti, on s'était embrassé et tout. La femme était venue avec les enfants dire au revoir. C'est touchant, vous savez. Et puis, il revient de la camionnette, il revient à la porte. Vous direz à tous vos amis de l'église, à vos amis, et de votre famille, que vous ne faites pas un jeu avec Dieu. Vous n'êtes pas en train de jouer avec Dieu. Bon, vous voyez, quand je dis ça paye, ça me vient à l'esprit maintenant, mais il y a de quoi pleurer. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Même si on en a bavé à accueillir des gens, et des fois, ne plus rien avoir dans le portefeuille, et ne pas savoir ce qu'il y a dans le frigo, eh bien, ça, c'est la cerise sur les gâteaux. C'est mieux que n'importe quel argent, n'importe quel frigo rempli. 2 Épître de Pierre, chapitre 1. Chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Hein. En parlant de Jésus, hein. C'est pour ça que je fais un plaidoyer pour un immense amour passionné envers Jésus. Je fais un plaidoyer auprès de vous pour que chacun de vous ait un amour inconditionnel pour Jésus, sans regret, sans partage. Vous verrez que c'est plus grand qu'un océan, plus grand que le soleil couchant et levant. Vous ferez des expériences qui sont des bénédictions. Et quand vous mourrez, vous serez là, et les yeux, tout d'un coup, les yeux vont s'ouvrir, vous allez voir quelque chose de formidable, la grandeur du ciel, ce que Jean d'Apocalypse dit. Mon oncle Jean, qui nous a beaucoup aidés, qui travaillait dans le champ pour nous, il fallait des légumes pour tous les réfugiés. Pensez, parfois 35 personnes ici, tous ensemble, ça mange. Hein, il piochait, il faisait le champ et tout. Et quand il est parti, les pompes funèbres m'ont appelé avant de refermer le cercueil. Mylène est venue avec, je crois. Mm-hmm. On a été, oui. Et on a été dans la petite pièce où il y avait le cercueil, où mon oncle Jean était là. Il croyait en Jésus, vraiment. Il avait compris tout l'évangile. Et ses yeux étaient ouverts, radieux, mais radieux. On peut dire il voyait Dieu en partant. Et j'ai déjà vu ça pour d'autres, mais j'en ai vu d'autres, c'était lamentable et horrible. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Vous imaginez que Jésus nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. Il faut peser les mots, il faut les méditer, des fois et des fois. L'apôtre Pierre qui écrit ça, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. On est compte de ce qu'il met là. C'est pas des mots. Derrière ça, il y a une immense réalité spirituelle, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Je me suis mis en fouillant la corruption du monde, etc., mais participants de la vie divine. Un cadeau qu'il n'y a ni dans le bouddhisme, ni dans l'islam, ni dans aucune secte, qui est venu par Jésus, qui est dans la volonté du Créateur, pour tous les hommes. D'où la nécessité d'être interactif entre nous, pour grandir vers ce Jésus, et interactif pour déborder sur les autres. Nous sommes des agents provocateurs de la vraie vie spirituelle, de la croissance en Jésus. Et il faut donner aux hommes les bonnes conditions utiles à leur conscience pour grandir. Si vous pardonnez, si vous aimez, si vous osez prier pour eux, passer du temps dans la prière pour eux, vous donnez des conditions utiles à leur croissance. Faire croître le travail de Dieu, c'est se mettre derrière le Seigneur Jésus et travailler d'arrache-pied tous les jours, par la foi, pour lui, par ses forces, par son Saint-Esprit. Alors, les relations entre les membres de l'Église doivent être fidèles, durables, favorables à la croissance de tous et à tout étranger qui peut rentrer un jour dans la salle de culte ou vous rencontrer dans un bus au travail. Il va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu, rien qu'en vous regardant, même si vous ne vous en rendez pas compte. La richesse d'une Église se reporte sur tous ses membres si réellement elle est vraiment l'Église de Christ. Nous sommes le corps de Christ, donc nous ne sommes pas le corps du diable. Alors tous les problèmes d'Église ou d'un chrétien reposent sur un déficit de la relation avec Jésus, avec le Christ. Tous les problèmes reposent sur un déficit d'une vraie relation avec Jésus. Une relation transparente, en sachant que l'Église doit vivre une nouvelle humanité, animée par Jésus. Dieu a voulu créer une nouvelle humanité, selon les promesses qu'il avait faites à Abraham, selon les enseignements de Jésus, selon le sacrifice de Jésus, selon le don du Saint-Esprit. que le Christ avait promis, que Jean-Baptiste avait annoncé, que nous soyons nés de nouveau pour être une nouvelle humanité. Une foi personnelle, oui, oui, parce qu'il faut être personnel entre le Seigneur et soi, mais une foi communautaire, elle n'est pas individuelle. La foi n'est pas individualiste, elle n'est pas égocentrique et narcissique. Nous ne sommes pas des chrétiens pour nous-mêmes, en nous-mêmes, par nous-mêmes. Pour être complet, un chrétien a besoin de ses frères et ses sœurs. Autant que du Christ, la personne du Christ. Si vous rejetez l'épouse de Christ, vous rejetez le mari, vous rejetez Christ. Si vous aimez l'épouse de Christ, vous aimez le mari de l'épouse. Il y a une union dans l'amour, entre l'union dans l'amour pour l'Église du Christ et l'Église et le Christ, le maître de l'Église, la tête de l'Église, qui en a fait son corps. Les relations spirituelles réciproques dans une Église sont donc une nécessité, un devoir, mais un devoir sans être une contrainte. C'est un devoir, c'est un appel de Jésus. Éphésiens 4, 29. On va bientôt finir, je suppose. J'ai toujours tendance à rallonger, mais voilà. La parole de Dieu est tellement passionnante. Et toutes ces choses, souvent j'y ai... C'est après des heures et des heures que tout ça, c'est comme un accouchement. Chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Imaginez, communiquer une grâce. Donc elle vient du ciel par moi pour les autres. Elle vient. Je suis un intermédiaire. Je suis un porte-avions qui mène. Hein? C'est inouï la relation. Nous sommes précieux aux yeux du Seigneur, déjà par son sacrifice, par le don du Saint-Esprit, mais par la mission d'être, plus que de faire. Romains 15, 2. Romains 15, 2. Moi, j'ai admiré quand on a distribué les évangiles cette année ici, on a distribué, on a eu beaucoup de cartes, vous savez, beaucoup de réponses. Hein. Moi, je les ai sur là, je réécris. Ils ne bougent pas. J'ai même été à la porte, j'ai redéposé quelque chose. Mais ce qu'il y a, il y en a un qui a mis sur la carte. Oui, j'ai besoin de l'évangile, de la Bible et tout ça, enfin de DVD. Mais ce qui compte, c'est vous voir vous. Je dis vous, c'est les chrétiens. Ben, je dis en plein qui a dépassé le cadre habituel de l'information. Et c'était Monsieur Christian. Monsieur Christian. J'ai gardé la carte hein, parce que ça vaut la peine. Le jour qu'il sera baptisé, je vais l'y coller au front. Romains 15, 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point conclu en lui-même. Vous vous rendez compte ? Christ ne s'est point conclu en lui-même. Alors il aura pu, lui. Hein ? Si Jésus ne se complaît pas en lui-même, alors adieu l'esprit de présomption. Hein. Dans Jean 13, vous voyez le lavement des pieds, on l'a vu. Hébreux 3. Hébreux 3, verset 13. Il est formidable, Jésus. Il est formidable. Je comprends l'apôtre Jean. Qui lui collait au basket. Hébreux 3, verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire que nous, chrétiens, tous les jours, il faut s'encourager les uns les autres. Allez, il y en a 10 d'absents aujourd'hui. Oh, ça ne change rien, c'est pas grave. On les reverra peut-être dimanche prochain. Oh, au bout de 2 mois, ils seront tous là. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Moi, en tout cas, pourquoi je fais des petits groupes études bibliques à droite et gauche, c'est pour éviter ce drame du manque d'exhortation, ce drame du refroidissement spirituel. Mais le bonhomme que je suis ne sera pas toujours là. Il faut que c'est un travail à partager. Exhortez-vous, c'est au pluriel ici. Hein? C'est collectif. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que le premier péché qui séduit, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est, j'en ai fait assez. Hein. S'il veut venir, il viendra. Hein. S'il ne vient pas, c'est qu'il n'est plus intéressé. Bon, la culture passive de l'Église. Nous sommes des êtres de relation en Christ. La solitude devient le pire enfer pour un chrétien. S'il n'a plus le courage de revenir, il faut avoir le courage d'aller le voir. Parce que sa solitude sera pire qu'un enfer. Tôt ou tard. Ok ? Notre Dieu est un Dieu de relation. Jésus est venu vers nous. Il vient vers les hommes. Les chrétiens vont vers les hommes. Quand vous voyez dans la Genèse, faisons l'homme à notre image, faisons est un pluriel. Dieu est au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Comme ça se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cette communauté d'amour réciproque, elle est notre image à nous en Église. Notre ressemblance à la Trinité doit se voir dans une assemblée. Dieu est riche dans son être, c'est un être d'amour. Et relationnel, l'Église doit être riche en son amour, en Christ, en ses relations. La foi sans la relation n'est pas la foi. C'est que du bidon. Jésus a été capable de nous enseigner une prière. Notre Père qui es aux cieux. Il n'a pas dit
mon Père.
Oui. Et il n'a pas dit à chacun de dire mon Père. Il a dit notre Père. C'est une relation collective envers le Père. Et si vous voyez bien, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, hein, que ta volonté donne à nous,
nous,
notre pain quotidien. Donc s'il y en a un qui manque de nourriture dans l'église, c'est quoi? Donne à nous notre pain quotidien. Ben oui, c'est Dieu qui pourvoira pour lui. Hein. Moi, fais-moi juste ce qu'il me faut. Là. Mais vous voyez à quel point ça peut être horrible. Le « nous » est voulu par le Seigneur. Comme il existe entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Il n'y a pas de jeu. La civilisation du jeu, c'est une catastrophe. Il y a un jeu, oui, je désire, j'aime Jésus, je désire, je suis, et je rentre dans le nous de Dieu, de sa Trinité. Ce n'est pas les autres qui me souillent, c'est mon cœur qui me souille. Matthieu 15, 18 à 19, hein. Ce n'est pas ce que je mange, ce n'est pas ce que j'entends. Aujourd'hui, les tablettes, les ordinateurs, ah, c'est ça qui détruit nos gosses et tout ça. C'est vrai qu'il faut être très raisonnable, très mesuré. Ce qui souille, c'est ce qui vient du cœur de l'enfant, de l'adulte, c'est le péché. C'est là l'ennemi. Bien sûr qu'il y a ce que la société propose pour encourager le péché. Mais la base... C'est pas parce qu'on a privé quelqu'un de la télévision, d'une tablette, d'un ordinateur, qu'il va être un enfant cœur, un super chrétien. Ouh là 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 là! La plupart de l'humanité n'a jamais eu ça, les tablettes, les ordinateurs et les films. Donc, attention, ce qui vient du cœur, c'est ce qui nous souille. C'est le péché. Toutes les pensées mauvaises, animosité, querelle, impureté, tout ça. Jésus dit bien, dans Matthieu 15, versets 18 à 19. Et donc il disait aux pharisiens qui se basaient sur l'extérieur, une religion de loi, de principe, il disait la vérité. Elle est pour nous aussi la vérité. Nous déposons tout, et je vais arrêter, devant le Seigneur. Vous savez, si vous avez un fardeau, je suis doux et humble de cœur, déposez-le moi. Eh bien, en fin de compte, dans Matthieu 11, 25 à 30, ce fardeau est à déposer. Pour avoir une bonne relation avec lui, déposons tout. Déposons tout. On continuera la fois prochaine. Et j'aborderai ce que c'est un peu bête à dire. Suivant les courants spirituels qui existent, il y a des techniques de prière, il y a des méthodes de prière différentes. Je voudrais vous expliquer comment la parole de Dieu, et j'ai beaucoup réfléchi à ça, ce qu'il ne faut pas faire dans la prière, est-ce qu'il faut plutôt qu'être recommandé par le Seigneur. Ok ? Ça viendra la fois prochaine. Parce qu'une vie en église, c'est aussi quand la prière est forte. Chacun de son côté, elle est forte. La prière ensemble, mais la prière seule. Mais la prière, il y a des cultures de prière, suivant les pays où on est né, etc., il y a des, ou dans les églises qu'on est passé. Et il faut voir ce que Dieu demande. Ça dépasse les cultures de prière. Il faut faire très attention. Et ça, à l'époque d'aujourd'hui, il faut que j'en parle, parce que nous pouvons avoir des familles de différents pays, et la prière doit dépasser les cultures, les normes qui sont dans la tête, qui viennent des traditions de chaque pays. La prière, c'est quelque chose qui doit venir du Saint-Esprit, selon la parole. On verra ça. C'est assez étonnant. Je suis moi-même en train de lire, de réfléchir. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Merci pour ta parole. Nous t'en recommandons tous les frères, les 10 personnes que tu aimes, que tu as appelées être tes enfants. Nous te les remettons, Seigneur, et ainsi que nous, si nous sommes à peu près 10 aujourd'hui, nous te louons pour toutes les grâces que tu as en réserve pour nous et que tu distribues dans nos vies. Par Jésus, en Jésus, pour ta gloire. Amen.
Mm-hmm. Amen.
Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou prier ou on termine ? Vous pouvez prier si vous voulez.